Et oui, pour éviter d'imploser, la CEDEAO a finalement capitulé, mais le Mali et surtout le peuple malien a donc gagné. Fumée blanche depuis Accra, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, donc de la CEDEAO, a levé ce dimanche leurs sanctions économiques et financières infligées au Mali. En effet, depuis le 9 janvier dernier, la CEDEAO a placé donc le Mali sous embargo après son interdiction de voyage aux autorités maliennes de transition dont elle a gelé les avoirs financiers. Ces sanctions diplomatiques, commerciales et financières seront alourdies par l'après, donc par celles de l'UMOA, notamment le gel des avoirs de l'État malien à la BCEAO. Peine perdue, ces sanctions ont produit des effets contraires à ceux visés par l'organisation sous-régionale. Elles ont plutôt suscité la colère des Maliens et réveillé en eux le sentiment de patriotisme. Comme un seul homme, le peuple est resté soudé derrière les autorités de transition. Et via des meetings, marches et sit-ins, les Maliens ont, à l'intérieur et aussi la diaspora, donc, ont fait front commun contre le diktat de la CEDEAO. L'apport des opérateurs économiques dans cette résistance n'est pas à négliger. Ces derniers sont restés attentifs aux appels des autorités de la transition pour que les populations ne ressentent pas les coups des 10 sanctions. Et ils ont assuré l'approvisionnement normal du Mali en produits tout en veillant sur la stabilité des prix. Des régimes de sanctions sous le modèle américano-européen ont toujours une nature illégale et injuste, visant seulement à faire souffrir les populations des pays qui ne courbe pas l'échine face à ce bloc occidental. Et oui, ces régimes de sanctions n'ont pas l'effet escompté et ne font que du tort aux populations sur le regard de la communauté internationale, ou plutôt l'ONU, qui ne dit absolument rien face à ces pratiques. Mais par contre, on attend toujours des sanctions contre les États-Unis et leurs alliés pour leurs invasions et le massacre des populations en Irak, en Syrie, en Libye ou encore en Somalie et dans beaucoup d'autres pays. Ou encore, on attend toujours les sanctions contre l'Arabie Saoudite, donc l'allié éternel des États-Unis, qui bombarde le Yémen et les civils yéménites depuis 2015, où actuellement le Rwanda qui est impliqué dans la déstabilisation dans l'est de la RDC et le massacre de ses civils. Pas de régime de sanctions contre les États-Unis ou les pays européens pour les nombreux massacres de civils. Donc, pourquoi il n'y a que des sanctions contre des pays qui prônent pour le souverainisme? Il faut donc qu'il y ait réellement un organe qui soit créé pour pouvoir mettre en place un régime de sanctions contre les Occidentaux. Il y a quelques jours de cela, l'Espagne a annoncé vouloir faire intervenir l'OTAN contre le Mali avec comme prétexte la montée du terrorisme. Mais Bamako n'apprécie pas du tout cette approche. Tout d'abord, Madrid avait déclaré dans un communiqué publié donc le samedi 2 juillet de l'ambassade donc d'Espagne au Mali au Burkina Faso, qui avait signifié donc que l'Espagne n'a nullement émis d'abord la requête d'une intervention de l'Organisation pour le traité de l'Atlantique Nord au Mali. L'Espagne n'a pas demandé pendant le sommet de l'OTAN ni à aucun autre moment une intervention, mission ou une action quelconque de l'Alliance au Mali. Peut-on lire dans ce communiqué qui précise par la suite que l'Espagne réaffirme ses liens profonds d'amitié et de coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec Bamako. Pour rappel, donc, sur ce sujet d'une intervention de l'OTAN au Mali, une intervention que le ministre espagnol des Affaires étrangères n'aurait pas exclue dans sa déclaration lors du sommet de l'OTAN qui se tenait à Madrid. Mais quoi qu'il en soit, Bamako ne voit pas cette déclaration d'un bon œil. Malgré que Madrid ait battu en retraite, le gouvernement du Mali a tout de même convoqué vendredi l'ambassadeur de l'Espagne au Mali, donc pour demander des explications et des clarifications. L'expansion du terrorisme au Sahel est surtout liée à l'intervention justement de l'OTAN en Libye, dont nous payons encore les conséquences, rétorque Bamako. L'ambassadeur d'Espagne a été donc convoqué vendredi par le gouvernement malien après des propos du ministre espagnol des Affaires étrangères, qui a dit ne pas exclure une intervention militaire de l'OTAN au Mali, comme l'a-t-on appris de sources officielles. Nous avons convoqué donc l'ambassadeur d'Espagne au niveau du ministère des Affaires étrangères pour élever une vive protestation par rapport à ses propos, comme l'a indiqué Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, lors d'un entretien. Ses propos sont inacceptables, inamicaux, graves, parce qu'ils tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain, comme a-t-il estimé le chef de la diplomatie malienne. Nous avons demandé des explications, une clarification de cette position au gouvernement espagnol et nous espérons que cela va venir assez rapidement, ajoutait Diop. Le ministre doit se rappeler que la situation actuelle d'insécurité et d'expansion du terrorisme au Sahel est surtout liée à l'intervention de l'OTAN en Libye, dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui, a-t-il aussi souligné. Car en effet, en 2011, le guide libyen Muammar Kadhafi a été renversé et tué par des rebelles soutenus par les États-Unis, la France et l'OTAN, qui s'étaient impliqués directement dans le conflit, allant jusqu'à lancer des frappes aériennes en Libye. Une intervention que désapprouvait l'Afrique et dont les voisins de la Libye se plaignent toujours amèrement. La chute du pouvoir de Kadhafi a conduit à un déferlement d'armes et de terroristes au Sahel, posant un défi sécuritaire majeur avec son lot de morts et de déplacements massifs. C'est depuis 2012, en effet, soit un an après la mort de Kadhafi, que le Mali a plongé dans une profonde crise sécuritaire, politique et humanitaire avec le déclenchement d'insurrections indépendantistes et terroristes dans le nord du pays. La propagation du terrorisme a gagné le centre et les pays voisins, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Cette année, la nouvelle feuille de route de l'OTAN évoque donc pour la première fois l'intérêt stratégique que revêtent pour elle le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Sahel, ainsi que notamment les menaces que sont le terrorisme et l'immigration illégale. De nouveaux prétextes lancés par les pays occidentaux qui veulent absolument entretenir le chaos et la destruction dans les pays d'Afrique, tout comme d'ailleurs au Moyen-Orient. Car depuis des décennies, l'OTAN vit des guerres et des conflits ou de la peur des menaces extérieures. En l'absence d'un ennemi crédible, l'OTAN risquerait donc de se désintégrer. Des tentatives ont donc été faites pour revitaliser l'alliance en invoquant la menace russe. Et elle cherche également à créer de nouvelles menaces en cas d'adversité, ce qui explique le désir existentiel de l'Occident et de l'OTAN de faire, donc notamment de la Chine, le nouveau défi à court terme aux côtés de la Russie, ou encore de chercher à tout prix à s'impliquer en Afrique et particulièrement dans le Sahel. L'OTAN, qui est seulement un outil de destruction, envisagerait donc de s'attaquer au Mali pour prétendant vouloir éradiquer le terrorisme. S'ils étaient réellement capables de faire ce genre de choses, cela se serait déjà vu. Plus personne ne croit en ces organes de destruction dans le monde et surtout en Afrique. L'exemple de la Libye est resté gravé dans les mémoires africaines et toucher le Mali pour en faire un deuxième Libye provoquerait directement le soulèvement de l'entièreté de l'Afrique.
Par rapport à ces thématiques que vous avez bien voulu m'envoyer. Bon, il s'agit de ces deux responsables de Boko Haram qui sont rendus à Makari aux forces armées camerounaises. C'est du côté du nord de la région de l'extrême nord camerounais et également de ces séparatistes qui ont attaqué un marché dans la région de l'Ouest, exactement à Fondo, dans un village qu'on appelle Fondonera, c'est dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. Oui, madame, il faut déjà retenir, il faut déjà s'interroger sur, comme vous le dites, qui souffle sur les braises de l'insécurité au Cameroun avec Boko Haram et les sécessionnistes anglophones, ou alors comment pourrait-on interpréter cette montée en puissance de l'armée camerounaise pour garantir la sécurisation du Cameroun, puisque Paul Biya a beaucoup misé sur son armée avec le recrutement récent de 10 000 hommes, de 10 000 hommes et la signature des accords de coopération avec la Russie. Oui, madame, ces thématiques sont effectivement d'actualité et méritent un intérêt particulier dans le contexte actuel marqué par la déconstruction de l'unipolarité mondiale en faveur d'une multipolarité avec l'opération spéciale de l'armée russe qui se déroule avec beaucoup de succès du côté de l'écran de l'Ukraine et qui nous renvoie quand même, qui nous permet plus que jamais de comprendre avec assez d'exactitude les canaux à travers lesquels le monde fonctionnait jusqu'à présent et sur le dos de et sur le dos des intérêts de la majorité. Madame, à l'origine des problèmes, pour revenir sur notre thématique, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'à l'origine des problèmes d'insécurité au Cameroun avec Boko Haram et les velléités sécessionnistes des régions dites anglophones, il faudrait que les téléspectateurs sachent, comme d'ailleurs, que toutes les anciennes colonies françaises, comme bien entendu le Cameroun compris, sont liées à la France par divers accords de coopération qui généralement ont été signés en gage des premiers dirigeants de nos pays avant l'accession à l'indépendance. Donc, c'est-à-dire c'était des conditions que la France leur imposait pour accéder au pouvoir et prendre en main les destins de nos États. On l'a vu avec le Cameroun, on l'a vu avec le Mali, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, on l'a vu, bref, avec tous les 15 pays de l'Afrique francophone sont passés par ces démarches totalement iniques et injustes qui laissaient à la fois la latitude d'imposer une douzaine d'accords aux États français. Parmi ceux-ci se trouvait naturellement un accord qu'on appelle aujourd'hui un accord de coopération en matière un accord de coopération en matière militaire, tout à côté d'un accord en matière de coopération monétaire, en matière de coopération diplomatique. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accord en matière de coopération militaire. Qu'est-ce que disait cet accord? Cet accord imposait la sous-traitance de la sécurité des États francophones par la France. Et ça se passait, en effet, la France retenait une partie des ressources, des devises générées par l'exportation des ressources naturelles africaines, des pays africains, au prétexte de leur garantir du matériel, la formation, du matériel et la formation militaire et de pouvoir intervenir en cas d'insécurité. Or, on a plutôt vu la France organiser des coups d'État, organiser des putsch, organiser des rébellions contre ces mêmes anciennes colonies, ce qui, sous d'autres cieux, aurait pu les rendre caduques depuis fort longtemps. C'est donc grâce à cet accord que la France tient, entre guillemets, en otage la sécurité de ces anciennes colonies africaines qui, de plus en plus, aujourd'hui sont victimes du terrorisme sous plusieurs formes. C'est des sécessions, c'est des rébellions armées, c'est le djihadisme, le djihadisme, encore que ce djihadisme est financé indirectement par la France et sous-traité. Et sous-traité par les Émirats du Golfe Persique.
La CEDEAO lève les sanctions économiques et financières contre le Mali. Les sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO contre le Mali ont été levées. La décision a été prise ce dimanche par les chefs d'État ouest-africains réunis à Accra, au Ghana. Cela fait suite à la proposition du nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. C'est acté, nous avons décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali, a déclaré à l'AFP un participant au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sous le couvert de l'anonymat. L'Angola reprend le remboursement de sa dette à la Chine 18 mois avant la fin du moratoire convenu avec Pékin. Les recettes pétrolières de l'Angola sont passées de 1,4 milliard de dollars en avril dernier à 2,1 milliard de dollars en mai grâce à la hausse des prix du pétrole sur le marché international. L'Angola a repris le remboursement de sa dette à la Chine 18 mois avant l'expiration du moratoire de 3 ans convenu avec Pékin en juin 2020 grâce à la hausse des prix du brut, a rapporté le quotidien South China Morning Post le lundi 27 juin. La dette due par ce pays d'Afrique australe à la Chine a diminué de 351 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2022 pour s'établir à 21,4 milliards de dollars après avoir été stable au cours des deux dernières années, a précisé le journal chinois. En Sierra Leone, le président Julius Madabio a donné son feu vert vendredi 1er juillet à un projet de loi visant à légaliser l'avortement. La loi actuelle interdit l'interruption volontaire de grossesse, sauf si la vie de la femme est en danger. La nouvelle loi doit encore être discutée et votée au Parlement selon la présidence. La loi actuelle interdit l'avortement sauf si la vie de la femme est en danger. Fondée en 2011, la Gabon Oil Company est une société à part entière faisant dans l'exploration, la production et la commercialisation de produits pétroliers. Son objectif est de faire du Gabon un acteur majeur d'un secteur actuellement dominé par les multinationales étrangères. Au Conseil des ministres du 29 juin 2022, le gouvernement a décidé de recapitaliser la Gabon Oil Company. Son capital social, qui était jusqu'ici de 1 milliard de francs CFA, s'établit désormais à 11 milliards de francs CFA. Cette recapitalisation entre dans le cadre de la modification des statuts de cette entreprise dans le but d'améliorer son fonctionnement et celui de ses organes opérationnels, indique le communiqué du Conseil des ministres. En RCA, une enquête a été ouverte contre le groupe français Castel pour complicité de crimes contre l'humanité. Une enquête préliminaire a été ouverte le 29 juin contre le groupe français Castel, accusé l'an dernier de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en RCA. Ces accusations découlent d'un rapport de l'ONG des Sentry qui accuse Castel d'avoir passé des accords avec un groupe rebelle centrafricain afin de protéger ses infrastructures en échange d'une aide logistique. Les avocats de l'ONG qui ont révélé le scandale se sont réjouis de cette avancée, estimant que ces investigations devraient permettre de faire la lumière sur les éventuelles responsabilités de sociétés et d'individus, notamment français, dans la commission de crimes d'une extrême gravité.